Bienvenue dans notre émission Ondes du Vivre Ensemble, une émission réalisée dans le cadre du projet Ondes du Vivre Ensemble, cofinancé par le Fonds européen d'intégration.
Dans cette émission d'information du mois d'avril sur le thème de la culture française, on retrouve Jean-Michel Doriac, professeur en école préparatoire de Montaigne à Bordeaux. Il est aussi responsable des affaires européennes et internationales. On l'écoute tout de suite.
On va parler de la culture française. Bon. Littérature, poésie et pensée, bon, c'est immense, hein. C'est immense comme sujet, donc on va forcément faire quelque chose qui va être très élémentaire. Bon, la France dans le monde, même si notre situation décline doucement, la France dans le monde reste un symbole d'un pays de culture, d'un pays où il y a beaucoup d'artistes, beaucoup d'écrivains, beaucoup de poètes, etc. Donc là, j'ai mis littérature, poésie et pensée. On va essayer de voir ce que ça veut dire. Alors, très rapidement, d'abord l'histoire de la langue. Vous voyez, cette langue française. Au départ, je repars très loin, mais rassurez-vous, on ne va pas faire le parcours complet. Au départ, il y a l'Empire romain. Donc cet Empire romain que vous avez là sur l'écran. Cet Empire romain fait que tous les pays qui sont dans cette limite rouge parlaient la même langue qui était le latin. Donc il y avait le latin, c'était l'équivalent de l'anglais aujourd'hui. Hein. Tout le monde, tous les gens, pas tout le monde, hein. Disons que tous les gens qui cultivaient, qui occupaient des positions, etc., avaient une langue commune. Bon. L'Empire romain a donc introduit une culture générale autour de cette langue, partout, tout autour de la Méditerranée. Cet empire, ah ça marche plus, attends, viens. Bon. Cet empire, il disparaît aux environs de l'année 500. Et là, le territoire français qui était sous domination romaine, il va évoluer. Alors, la partie sud va garder une langue qui est une langue proche du latin, qu'on appelle l'occitan, d'accord, la langue d'or. C'est une langue où il y a les mots, quand on analyse les mots, quand on sait le latin, on se rend compte que beaucoup de mots sont du latin déformé. En fait, du latin qui a été simplifié, parce que le latin est une langue relativement compliquée. Les gens ont simplifié, on appelait ça du latin de cuisine, c'est-à-dire du latin vulgaire, vous voyez, du latin qui avait été, simplifié. Donc la langue d'oc, c'est une langue populaire qui va se parler pendant des siècles. Au nord, ben, au nord, c'est plus du tout pareil. Au nord, on a une langue qui s'appelle la langue d'Oïl, parce que à la chute de l'Empire romain, toute cette partie nord a été occupée, plus ou moins, par des peuples qui venaient de ce qu'on appellerait l'Allemagne aujourd'hui, ou des Pays-Bas, etc. Or, ces gens-là parlaient une langue germanique. Donc, on va avoir, au départ, en France, deux langues, la langue d'Oïl, la langue d'Oïl. Ça va durer, ça, ça va durer 1000 ans, pratiquement. Hein. C'est seulement en 1500 et quelques qu'on va unifier tout ça. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, on n'a rien unifié du tout dans la réalité, puisqu'il a fallu attendre l'école de la Troisième République pour que tous les jeunes Français apprennent la langue française. Ce qui veut dire que même quand on a unifié officiellement, les gens continuaient à parler leur langue. Alors vous voyez, les Basques parlent en basque, les Bretons qui parlent le breton, les Flamands. Donc en fait, il y a ce qu'on appelle en France des langues régionales. Alors, quand est-ce qu'on unifie ? Ben, on unifie en 1539, alors c'est une date importante parce que c'est de là que je vais partir, le roi François Ier, que vous avez là, prend un édit qui s'appelle l'ordonnance de Villers-Cotterêts, une petite ville pas trop loin de Paris. Cette ordonnance dit que dorénavant, tous les documents officiels de la France devront être écrits en français et pas en latin. Le latin, c'est fini, tous les documents de la France devront être en français. Le latin devient une langue de l'université. Ça reste la langue des savants. D'accord. Bon, donc, à partir de 1539, il y a une langue qui s'appelle la langue française, qui en fait est un mélange de la langue d'Oïl que vous avez vu tout à l'heure, un mélange de la langue du Nord et de la langue du Sud. Mais elle est quand même beaucoup plus dominée par cette langue d'Oïl, parce que c'est la langue des rois de France. Donc, la langue du Sud va être marginale, hein, va être secondaire. Voilà, à partir de cette date-là, on a une langue qui s'appelle la langue française. Alors, cette langue, elle existait déjà, c'était la langue du peuple. Le peuple parlait ça parce que le peuple ne maîtrisait pas le latin et le grec. Donc, il va falloir fixer des règles. Et donc, à cette époque-là, on va fixer des règles de la grammaire française, on va, les règles que vous avez apprises quand vous avez appris le français. Voilà. Bon, alors, à partir de là, les artistes français. Bon, je vais être très modeste, je vais parler des gens qui écrivent, de la culture écrite. Hein. Les artistes français de la culture écrite, ceux qui écrivent des livres, des romans, ceux qui écrivent des poésies, ou ceux qui écrivent de la pensée, les philosophes, etc., vont s'exprimer de plus en plus en français. Donc, 16e siècle. Alors, 16e siècle, on a, c'est le siècle de la poésie, avec des très grands poètes. Ce poète-là est important, parce que c'est lui qui va poser, Joachim du Bellay, il va non seulement écrire des très beaux poèmes, mais il va, en quelque sorte, poser les règles de la langue française. Et il a, donc, il va être le premier à faire proposer une grammaire de la langue française. Alors, à cette époque-là, vous avez plusieurs poètes qui vont devenir des très grands poètes de la culture française, qui s'expriment en français et qui travaillent cette langue vraiment de façon très précise. Bon, Ronsard, en particulier, est considéré comme le prince des poètes avec énormément de poésie. Alors, bien, aujourd'hui, c'est une langue qui est ancienne, hein, mais qui, à l'époque, était d'une très grande modernité, puisqu'il n'y avait que le latin avant, hein. Donc, Joachim du Bellay, Ronsard, alors, Rabelais, alors, celui-ci est intéressant parce que, Jacques, tu me diras si je me trompe, hein, je le considère, moi, comme l'inventeur du roman français. Ouais. Il me semble que, bon, Gargantua, Pantagruel, il a inventé des personnages, alors, formidables, des géants, des géants qui pensent qu'à manger, à boire, des gros fêtards. Et ces géants, il leur fait vivre des tas d'aventures. Mais ces aventures sont des aventures, en fait, très, très drôles, pour dire des choses très sérieuses. Et donc, Rabelais, c'est très drôle, c'est parfois très, très, très vulgaire. Il aime bien le mot « merde », par exemple. C'est, voilà, ça, il aime bien le maître. Voilà. Et donc, ça a donné naissance à un adjectif en français. Quand quelque chose est drôle et même très cru, on dit « rabelaisien ». Oui. Rabelaisien, ça veut dire cru, etc. Oui, il a donc donné son nom à un adjectif. Donc lui, il a inventé un roman qui se lit avec un plaisir débordant, qui a été adapté au cinéma, etc., avec ces bons gros géants qui passaient partout. Alors, celui-ci, Michel de Montaigne, c'est
le local.
C'est le local, il est bordelais, il a été maire de la ville de Bordeaux pendant deux mandats. Et lui, c'est un philosophe.
En plus, il y avait la peste, le choléra, la guerre entre protestants et
Quand
il était maire, il y avait du...
Ah oui, ça chauffait, hein, Bordeaux, et c'est ça, là, c'était chaud. Donc lui, il a écrit, lui, c'est quelqu'un qui a écrit à partir de lui-même. C'est-à-dire qu'il a décidé qu'il allait prendre sa personnalité comme objet d'étude, et il a écrit des très gros livres qui s'appellent « Les essais ». Parce qu'en fait, c'était effectivement des tentatives de se décrire, de se comprendre, et à travers lui, de comprendre le monde. Ça reste un monument de la philosophie et de la pensée, et ça reste surtout un modèle aussi d'écriture, parce que la langue de Montaigne est une langue bon, alors, ancienne, hein, difficile à lire dans le texte original, mais qui reste une très belle langue, et en particulier en philosophie, ces textes sont très importants. Donc Montaigne, c'est un des très grands auteurs français, pas forcément facile. Hein. Alors, on aborde le XVIIe siècle. Alors là, la langue française, elle est bien posée, hein, pendant les années 1500, de 1500 à 1600, ben, il a fallu créer cette langue française, vous voyez, c'est l'inventer. Donc il y avait des mots qu'il fallait inventer. Rabelais, il a inventé des tas de mots. Et alors lui, c'était... Bon, les poètes, ils ont travaillé pour que ces mots puissent se marier entre eux. Donc il y a eu tout un travail de fait de 1500 à 1600. Le XVIIe siècle, on va dire que c'est le moment où cette langue, elle est bien construite. Donc, c'est ce qu'on appelle l'âge classique, c'est-à-dire c'est vraiment le moment où cette langue est bien maîtrisée. Et là, on va avoir, donc, pendant 80 à 100 ans, des philosophes, des poètes, mais aussi des auteurs de pièces de théâtre. C'est une espèce d'âge d'or de la langue classique. Donc là, vous allez voir des noms que vous connaissez, qui sont des noms très très connus, qui sont dans toutes les histoires de la littérature et que vous retrouvez un peu partout. Alors... D'abord, Jean de La Fontaine. Bon, La Fontaine, il est connu mondialement parce qu'il a inventé... il a repris un style que les Grecs avaient inventé, qu'on appelle les fables, La fable, c'est raconter une histoire, alors à travers des animaux, souvent. Faire parler les animaux. Alors la plus célèbre, c'est le corbeau et le renard, bon, qui est très très connu. Il fait parler un corbeau et un renard qui discutent. Et alors il en a écrit des dizaines et des dizaines, des très connus. Alors à un moment donné, tous les enfants apprenaient ça. Et c'était très très réputé pour ça. Donc Jean de La Fontaine, c'est une très belle langue parce que c'est rimé, mais en plus il y a des très belles expressions. Alors il est l'auteur de très très nombreux proverbes. Vous savez ce qu'est un proverbe ? Ou un dicton ? C'est une formule qu'on répète qui devient une formule de référence. Bon, donc par exemple, il a fait une histoire très célèbre qui s'appelle « Le lièvre et la tortue », où il compare un lièvre qui court très vite et une tortue qui marche très lentement. Et à la fin, c'est « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». C'est devenu un proverbe en France. Il faut partir à point, ça veut dire « Ça ne sert à rien d'aller vite, il suffit de partir au bon moment ». Bon, mais il a inventé des tas de formules comme ça qui sont devenues des proverbes. Voilà. Alors, un autre grand, c'est Pascal, qui a vécu très peu de temps. Il est mort très jeune, à 38, 39 ans. Voilà, alors Pascal, c'est un philosophe, mais c'est aussi un mathématicien. C'est quelqu'un qui a fait des traités sur la géométrie, qui s'intéressait énormément aux mathématiques. C'est lui qui a inventé la première ancêtre de la machine à calculer, avec le boulier, hein, qu'il a repris aux Chinois, qui était une invention chinoise, mais qu'il a adapté. Donc c'était à la fois un esprit très scientifique, et c'était un grand philosophe, qui a laissé un recueil notamment qui s'appelle « Les Pensées », qui sont des petits extraits, qui sont... Voilà, des formules philosophiques qui sont très importantes. Bon, c'est un auteur important qui était également très marqué par le christianisme, très croyant. Alors là, on est dans les auteurs de théâtre. Racine a écrit ce qu'on appelle des tragédies, c'est-à-dire des pièces qui, en général, ne se terminent pas bien. Et alors surtout, c'est, bon, alors, c'est beaucoup inspiré de l'histoire grecque. Hein. Ce qui est surtout intéressant... C'est le travail qu'il a fait sur la langue française, puisque tout est écrit en vers, avec des rimes. Donc les phrases font toutes la même longueur, hein, 12 syllabes, et des rimes. Donc il y a un travail sur la langue qui est extraordinaire. Et ces pièces font partie du grand répertoire théâtral, sont jouées, etc. Bon, aujourd'hui, elles sont plus difficiles d'accès pour un public jeune, parce qu'elles racontent des histoires de la mythologie grecque, très souvent, et que le public français jeune, il ne connaît pas la mythologie, hein. Donc, ça devient difficile à comprendre, malheureusement, pour les jeunes. Alors, voilà. Corneille, c'est l'autre grand tragédien de l'époque, hein, qui écrit également des pièces d'inspiration historique, etc. Donc, aussi une majorité de tragédies. Bon, ce sont à la fois des tragédiens et des poètes, parce que certains passages de leurs tragédies sont de la pure poésie. Donc, bien sûr, ce sont des... Alors, ils ont formidablement... fait avancer la langue, parce que le travail qu'ils ont fait sur la langue, évidemment, ça fait progresser considérablement le français. Bon, et puis Descartes. Alors Descartes, c'est un philosophe, mais c'est aussi un mathématicien, lui aussi. Descartes, effectivement, a écrit des traités de philosophie et des traités de mathématiques, qui, lui, a de tous ceux qui sont là, c'est le seul qui a été obligé de s'exiler, de quitter la France parce qu'il se sentait menacé à cause de ses opinions. Donc il est allé aux Pays-Bas et il est mort aux Pays-Bas. Mais à l'époque, les Pays-Bas étaient un pays qui accueillait beaucoup de gens qui venaient... Il y avait beaucoup de Français à l'époque. Voilà, Descartes a écrit énormément de choses. Bon, il est tellement important qu'il a donné naissance à un adjectif qui s'appelle cartésien. Oui. Quelqu'un qui est cartésien, c'est quelqu'un qui est rationnel, rationaliste. Et... il paraît, mais alors je suis très réservé là-dessus, que les Français sont cartésiens. J'ai beaucoup de mal avec ça. Oui, mais non, mais dire que les Français sont cartésiens, c'est à mon avis un abus de langage, hein, c'est pas vrai. Enfin, vous voyez, il est tellement important que, comme Rabelais, on a fabriqué un adjectif à partir de sa pensée. Alors, le XVIIe siècle littéraire, là où je vous ai mis une autre représentation, hein, on les trouve tous. Alors, il y a une faute en haut, hein, c'est pas monachie, c'est monarchie, hein, il manque un R là. Oui. Voilà. Donc vous retrouvez les mêmes auteurs que je vous ai mis là, hein, Corneille. Alors il y en a un de plus qui s'appelle Molière, qui est peut-être celui que vous connaissez le plus, parce que Molière, c'est un auteur de pièces, lui c'est un auteur de comédie. Et Molière, il est plus facile à comprendre parce qu'il a créé des personnages qui sont des personnages universels. par exemple, il a écrit une pièce remarquable qui s'appelle « L'avare ». L'avare, c'est celui qui aime l'argent. C'est celui qui est... Alors, l'avare, toute la pièce, il a peur qu'on lui vole son argent, il a peur qu'on lui dépense son argent. Et c'est devenu un modèle social, quoi. C'est l'avare de Molière. Bon, il a écrit des pièces comme ça avec... Lui, c'est des comédies, hein, donc c'était lui-même un comédien, un acteur. Hein. Il écrivait ses pièces et il les jouait. Il est d'ailleurs mort en jouant. Hein. Il a eu une mort extraordinaire. Il est mort sur scène. Bon, voilà, Molière. Donc, voyez quand même, ce 17e siècle, c'est un siècle extraordinaire, parce que vous avez... Corneille, Racine, deux sommets de la tragédie. Vous avez Molière pour la comédie. Vous avez La Fontaine pour les fables. Vous avez Perrault pour les contes de Perrault. Il a écrit énormément de contes d'histoires qui ont été ensuite adaptés au cinéma, etc. Bon, il a créé des personnages comme même le Chaboté, un chat qui a des grandes bottes et qui, bon, voilà, le Chaboté, ça a même donné lieu à un film récent hein, là, qui est ressorti. Bon. Voilà. Donc. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que ce XVIIe siècle, c'est vraiment un siècle de très grands auteurs, d'une très belle langue classique. Alors, le XVIIIe siècle, celui qu'on appelle le siècle des Lumières. Bon, alors là, on n'est plus seulement en France. Hein. Les Lumières, c'est un mouvement philosophique européen. Pourquoi Lumières ? Parce qu'il y avait cette idée d'éclairement du monde par la raison. Hein. C'est-à-dire de sortir de l'obscurité. Alors, quelle était cette obscurité ? Eh bien, cette obscurité, au départ, c'est l'obscurité de la non-raison. Mais la non-raison, pour les philosophes, pour beaucoup de philosophes des Lumières, pas tous, hein, c'était la pensée religieuse. Et donc, à partir des Lumières, clairement, il y a deux courants de pensée. Il y a un courant qui s'appuie sur la religion, et un courant qui combat la religion, en disant la religion, c'est l'obscurité. Et la raison, c'est la lumière. Ce siècle des Lumières, il touche toute l'Europe. L'Allemagne, l'Angleterre, la France, alors il touche plus l'Europe du Nord que l'Europe du Sud.
L'Italie.
Non, ni l'Italie ni l'Espagne, pour des raisons simples, c'est qu'en Italie ou en Espagne, la religion catholique est très puissante. Alors que l'Europe du Nord est plutôt protestante. Alors, il y a un lien évident entre les Lumières et les protestants. Les protestants, il y a une pluralité chez les protestants qui n'est pas chez les catholiques. Les protestants admettent les opinions diverses, etc. Et ils sont beaucoup plus individualistes. Donc ça va favoriser les Lumières. Donc, évidemment, il y a d'immenses auteurs des Lumières en Allemagne. On pense à Emmanuel Kant, on pense à Goethe, qui sont des auteurs extraordinaires. Et il y a des très grands auteurs français. Alors, peut-être le plus grand par l'écriture, pas le plus profond, mais le plus grand par l'écriture, c'est Voltaire, qui est un pseudonyme. Hein. Il s'appelle en fait François-Marie Arouet, mais il a choisi comme nom de plume Voltaire. Il est tellement bon écrivain. C'est un écrivain extraordinaire. C'est une langue extraordinaire. Quand j'étais au lycée, c'était l'écrivain que je préférais parce que c'est ironique, c'est léger, c'est bon. Vous savez comment on appelait le français après Voltaire ? La langue de Voltaire. On ne disait pas le français, on disait la langue de Voltaire. Il était tellement bon qu'on ne disait pas, il parle le français, on disait il écrit dans la langue de Voltaire, vous voyez ? Bon, c'est vraiment... donc, c'est un auteur extraordinaire.
C'est pas lui qui a écrit Candide ?
Si, ouais. C'est lui. Alors, il a écrit des contes philosophiques, qui sont remarquables, Candide, Micromégas, enfin, des choses comme ça. Il a écrit des pièces, je ne sais pas d'ailleurs là qu'il est le meilleur, Candide a écrit des pièces. Et puis, il a écrit beaucoup de lettres, de traités. Bon, c'est un auteur très... il a énormément écrit, en particulier énormément de lettres. Et il a... Comment vous dire ? En français, on dit que c'est quelqu'un qui a de l'esprit. C'est-à-dire qui est drôle, qui est capable d'être méchant, qui est capable d'être bon. Voilà, il est... et dans la littérature française, avoir de l'esprit, ça veut dire avoir du talent. Donc lui, il a de l'esprit. Voltaire. Alors, Rousseau. Rousseau, il est mondialement connu parce qu'il a écrit des livres de philosophie politique. Il a écrit notamment un livre qui est très connu, qui s'appelle « Le contrat social ». Il a écrit, c'est un philosophe qui s'est intéressé plus à la société. Il a écrit un discours sur l'inégalité. Il a écrit, bon, donc voilà. Alors, c'est quelqu'un aussi qui était très divers. Il a écrit ce que peu de gens savent. Il était musicien. Il a écrit des opéras. Il a composé beaucoup de pièces musicales, notamment un opéra qui est joué régulièrement qui s'appelle Le Devin de Village. Donc, c'était quelqu'un d'assez complet. Et il a surtout il a écrit un traité d'éducation. Parce qu'il s'est intéressé à l'éducation, il a écrit un livre qui s'appelle L'Émile, du nom du prénom Émile, ou de l'éducation, où il développait l'idée d'une éducation qui n'était pas du tout l'éducation de l'époque. qui était une éducation fondée sur l'intérêt, sur la recherche, etc. Donc, quelque part, c'est le précurseur des méthodes pédagogiques nouvelles. On peut le dire, non, Jacques? Ça va, je suis orthodoxe, là. Non, c'est vrai que écrire ce qu'il écrivait à l'époque où il écrivait, c'était extrêmement novateur. Donc, c'est un auteur qui a écrit beaucoup sur lui aussi, les rêveries du promeneur solitaire, les confessions. Quelquefois, on dit que, en France, c'est le précurseur du romantisme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez lui d'un petit peu nostalgique, d'un petit peu. Il est très sensible. Quelquefois, ses adversaires diront qu'il est trop sensible. Voilà. C'est une très belle langue. C'est une très très belle langue. Il n'était pas français, il était suisse. Mais comme il a bien réussi, on dit qu'il est français. Nous aimons beaucoup les étrangers qui réussissent bien. Vous voyez, si vous êtes un grand buteur de foot, il n'y a aucun problème pour avoir vos papiers et devenir français. Pas de problème. Donc Rousseau, on a oublié qu'il était suisse. Il est grand écrivain français. Montesquieu. Alors c'est Montesquieu, il est de Bordeaux. Bon, c'est un noble, le baron de Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, baron de Montesquieu, vous voyez. Alors lui, il appartient aux privilégiés. Il appartient aux privilégiés, une famille très riche, qui a des grands domaines. Il est magistrat, et il sera au Parlement de Bordeaux, il est magistrat, il est juge. Bon. Et lui, il va s'intéresser beaucoup, il va écrire beaucoup sur le droit, la loi. Il a écrit un livre très important qui s'appelle « L'esprit des lois ». Et en fait, c'est lui qui va faire la théorie politique d'un système que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire un système qui est à la base de la démocratie. Il dit qu'il ne faut pas que le pouvoir soit dans les mains d'un seul, mais il faut qu'il y ait un pouvoir législatif, un pouvoir judiciaire et un pouvoir exécutif. Les trois pouvoirs qu'on retrouve dans ce système. Donc c'est un philosophe politique important. Il a aussi écrit un très beau roman qui s'appelle « Les lettres persanes », qui est plein d'humour. C'est très beau, c'est très, très belle langue aussi. Alors là, on est dans une langue qui a évolué par rapport au XVIIe siècle, qui est une langue plus légère, mais très très belle. Bon, le plus impertinent, le seul qui était vraiment athée, qui ne croyait pas en Dieu, qui l'écrivait, qui le disait, Diderot, un esprit, on va dire un esprit libre, quelqu'un qui a toujours été pauvre. Alors lui, il n'a jamais eu d'argent, il a été en prison pour ses opinions. Il a écrit de très belles choses, de très belles plumes, il a écrit du théâtre, il a écrit des romans, et surtout il a lancé une œuvre phénoménale avec un de ses camarades qui était mathématicien. Il a lancé la première encyclopédie en langue française qui s'appelle l'encyclopédie avec un E majuscule, c'est-à-dire un résumé de tous les savoirs de l'époque. Une œuvre phénoménale qui va mener à bien, quand même, tant bien que mal, avec beaucoup de difficultés. Cette encyclopédie sera le modèle de toutes les encyclopédies qui suivront après. Une œuvre phénoménale, rassembler tout le savoir. Et là, vous avez un peu ce que sont les Lumières. L'idéal des Lumières, c'est ce que Voltaire appelait l'honnête homme. L'honnête homme, ça ne veut pas dire, c'est pas celui qui ne vole pas ou qui ne prend pas. L'honnête homme, c'est celui qui est curieux, qui s'intéresse à toute chose et qui donc va essayer de maîtriser le savoir du monde. L'honnête homme, c'est celui qui va s'intéresser à la philosophie, à la géométrie, aux mathématiques, parce qu'au XVIIIe siècle, il y a une grande soif d'expérimentation, etc. Donc, Diderot, il offre un outil extraordinaire qui s'appelle l'encyclopédie. Rien que pour ça, il méritait de passer à la postérité. Alors là, vous avez la même chose. Hein. Voilà. Ici, sur celui-ci, il y a en plus deux auteurs de théâtre que je n'ai pas évoqués. Marivaux, qui écrit des comédies magnifiques, avec des situations qu'on appelle des quiproquos, un hein, test, des situations où quelqu'un est pris pour un autre. Bon, vous voyez, des pièces très drôles où le valet échange sa place avec le maître. Bon, donc c'est très drôle, c'est très bien écrit, c'est brillant. Marivaux, c'est de la comédie. C'est la, enfin, je dirais, c'est ça continue l'esprit comique de Molière, mais adapté à son époque. Vous avez aussi Beaumarchais. Alors, Beaumarchais, ici, qui lui écrira des grandes pièces. Il est l'auteur notamment du Mariage de Figaro, hein, qui va être adapté, qui va donner. Bon, voilà, qui est lui un auteur brillant. Alors, lui aussi, un esprit provocateur, bon, etc. Mais qui lui va vraiment. C'est lui qui va inventer, il va créer la protection du droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est un auteur écrit quelque chose, eh bien, on n'a pas le droit de lui prendre ce qu'il a écrit, on doit même le payer quand on l'utilise. Donc c'est lui qui va protéger pour la première fois le droit d'auteur des auteurs, ce qui, même si c'est mythique, c'est quand même pas mal. Parce qu'avant lui, on pouvait prendre n'importe quoi, n'importe qui. Ouais. Donc il est l'inventeur de la notion de droit d'auteur et de la première protection. Oui, oui. Ouais, ouais. Mais aujourd'hui, on peut dire que c'est lui qui a posé la première pierre de ce qu'on appelle la propriété intellectuelle sur Internet. Vous savez, les fameux... Bon, avec Internet, on a beaucoup de mal, mais il y a quand même un droit d'auteur sur Internet aussi. Bon, allez, hop. Alors, 19e siècle. Bon, ça, ça n'engage que moi. Hein. Peut-être que mon vieux camarade là ne sera pas d'accord, mais moi, je considère que c'est l'âge d'or de la littérature française. Bon. Tout simplement parce que, 19e siècle, les Français sont plus nombreux. Il y a encore plus de gens qui écrivent. Il y a une vie entière ne suffit pas à un honnête homme pour lire tout ce qui a été écrit au 19e siècle. C'est phénoménal. C'est purement phénoménal. Mais ce n'est pas seulement la quantité, c'est la qualité. Alors, regardez. Non, ce n'est pas celui-là. Alors, là, c'est juste un tout petit choix. Bon, vous voyez, on retrouve nos régimes politiques en haut. Hein. Vous voyez que c'est compliqué. Hein. Empire, restauration, monarchie, république, empire. Bon, alors, l'histoire politique est compliquée. Mais dessous, vous avez aussi une histoire littéraire. Regardez en bas. Romantisme. Réalisme, symbolisme, naturalisme. Ça, ce sont les quatre écoles de style des écrivains. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, vous allez avoir quatre styles différents qui vont se mettre en place, mais qui ne vont pas s'effacer l'un et l'autre, qui vont souvent cohabiter. Alors, là, je suis obligé d'aller vite, mais il y a d'abord alors, le romantisme. Le romantisme, c'est en fait, c'est l'enfant de Rousseau, hein. C'est-à-dire ces gens qui aiment la nature, ces gens qui vont beaucoup écrire sur leurs sentiments, notamment sur l'amour. Avant le romantisme, l'amour était juste évoqué, effleuré. Les romantiques vont écrire des pièces autour de l'amour, vont faire des recueils de poèmes entiers autour de l'amour. L'amour et la nature sont les deux principales inspirations des romantiques. Alors là, vous avez Lamartine, grand poète romantique, Victor Hugo, grand poète romantique, également. On n'en a mis que deux ici, mais bon.
Chateaubriand.
Bon. Alors, Chateaubriand, il est un peu. Il est inclassable, déjà. Bon. Mais Chateaubriand, beaucoup considèrent, alors c'est un point de vue, que c'est le meilleur écrivain en prose de la langue française. C'est une opinion qui est assez répandue. C'est-à-dire qu'il a un style d'une fluidité, d'une qualité, d'une précision, qui fait que certains disent que c'est le plus grand. Alors vous savez ça, on ne pourra jamais savoir qui est le plus grand. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est sa prose, sa façon d'écrire. Il a surtout écrit des essais, des livres, des romans, etc. Voilà, il pense que c'est le plus grand. Il a notamment écrit deux œuvres gigantesques. Une qui s'appelle « Le génie du christianisme », parce que lui pensait qu'effectivement le christianisme avait un génie propre qui dans l'histoire de la France pesait beaucoup, et il a écrit un livre énorme qui s'appelle « Les mémoires d'outre-tombe », c'est-à-dire des mémoires, et en fait il a écrit vivant ses mémoires comme s'il était déjà mort. Bon. Une œuvre colossale, hein, énorme. Donc Chateaubriand, lui, il est inclassable, hein. On ne peut pas dire que c'est vraiment un romantique, c'est un continent à lui tout seul. Bon, après vous avez donc les poètes, ça continue après avec Baudelaire, et Verlaine, qui sont plutôt des poètes symbolistes. Bon, Baudelaire, qui a écrit un magnifique recueil qui s'appelle « Les fleurs du mal », qui est un des sommets de la poésie française. Et puis Verlaine, je vous ai mis un poème de Verlaine sur la deuxième page, c'est tout ce que j'ai pu mettre. Hein. Donc voilà, je vous ai mis un poème très connu que les enfants apprennent à l'école, « Chanson d'automne », qui est un poème où il faut le lire à haute voix. Si vous pouvez le lire à haute voix pour entendre la musique. Ce sont des mots qui chantent. Ça s'appelle chanson d'automne. C'est-à-dire que quand on le dit, on a l'impression d'un air. Et je ne vous surprendrai pas, je vous dis que ce poème a été mis en musique et chanté par de très nombreux chanteurs. Mais au départ, c'est un poème, chanson d'automne. Et vous voyez, il est écrit avec des vers très courts, très très courts. Hein, et donc, ça permet d'avoir des sons qui reviennent. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Vous voyez, il y a une musique qui vient. Voilà. Et donc c'est un texte qui a été mis en musique par de très nombreux auteurs et chanté et qui le sera encore. Bon, après on a d'immenses auteurs de romans. Alors c'est là, je pense, que le 19e siècle va marquer l'histoire littéraire, c'est qu'il va y avoir des auteurs qui vont faire des œuvres romanesques énormes. Alors Stendhal d'abord, qui va écrire quelques grands romans, mais qui sont importants parce qu'il va être ensuite imité et copié dans de très nombreux pays du monde. Donc lui, il écrit des romans avec des héros qui sont souvent très jeunes et soumis à des tas de péripéties dans l'histoire. Son roman le plus célèbre s'appelle « Le Rouge et le Noir ». Et c'est un roman qui se passe au début du 19e siècle, voilà, avec beaucoup d'imagination. Donc Stendhal, une très belle langue. Alors Balzac, lui, c'est une œuvre énorme parce qu'il a carrément, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, il a fait une espèce de cathédrale de livres. Il a tout simplement appelé ça la comédie humaine. C'est-à-dire que l'ambition de Balzac, c'était de décrire l'humanité de son temps. Donc il a fait des romans. Et où dans chaque roman, il s'occupe d'un problème de l'humanité. Le roman de l'avare, le roman de l'ambitieux, le roman... Donc, chaque fois, et toujours en racontant des histoires. Donc, la comédie humaine, c'est une des plus grandes tentatives littéraires de la langue française. C'est plus de 20 volumes, très gros volumes, c'est en fait des dizaines de romans. Bon, c'est extraordinaire. Bon, il avait une capacité d'écriture extraordinaire. En plus, il écrivait très vite parce que la plupart de ses livres ont été publiés dans les journaux comme feuilletons. Donc, il écrivait carrément au jour le jour. Vous voyez, il a inventé la suite. Ah, oui, il a jamais été riche. Il courait toujours après l'argent. Et donc, il écrivait au fur et à mesure pour alimenter le feuilleton. Beaucoup de ses romans ont été publiés d'abord comme feuilletons, puis rassemblés après en livres. Et quand vous voyez la qualité, vous dites quand même qu'il était. Il était quand même très fort, parce que, bon, en général, si on écrit beaucoup au kilomètre comme ça, c'est pas très bon. Lui, c'est vraiment extra. Bon, Flaubert, grand romancier, alors tout à fait à l'opposé de Stendhal. Et Flaubert, ses romans sont des romans qui sont toujours des critiques de la société très, très précises, assez sévères. Hein, il n'a pas écrit beaucoup de livres, mais chaque fois, ce sont des romans... qui percute. Il y en a peut-être un que vous connaissez parce qu'il a été adapté au cinéma souvent, il s'appelle Madame Bovary. Madame Bovary, voilà, c'est donc à travers la simple vie d'une jeune provinciale, il arrive à décrire toute une société et tous les défauts d'une société, la société normande, puisqu'il était du côté de Rouen. Hein, voilà. Donc c'est énorme. Alors Maupassant, qui était d'ailleurs, qui connaissait bien Flaubert et qui était... Normand aussi. Lui, il a écrit surtout des histoires assez courtes. Et pareil, hein, des histoires qui créent des personnages, les mettent dans une petite aventure pour dégager leur personnalité. Bon, il est mort assez jeune. Il est mort malheureusement fou. Donc, à l'époque, on ne savait pas traiter les maladies psychiatriques. Hein, donc, il a laissé beaucoup de nouvelles, et ces nouvelles sont adaptées régulièrement pour la télévision française. C'est parce que ces histoires sont très drôles, c'est plein d'humour, il n'y a jamais de haine, c'est toujours, il dit les choses, mais c'est assez gracieux. Voilà. Et puis alors Zola évidemment, bon, lui c'est le maître du naturalisme, c'est-à-dire que ses romans ressemblent au monde réel, je dis bien ressemblent, en fait c'est très travaillé. Mais voilà, alors lui, il a fait cette œuvre, une œuvre extraordinaire à partir de la vie d'une famille qui s'appelle Les Rougon-Macquart. Il a fait toute une série de 20 gros romans, où il décrit toute la société du 19e siècle. Alors, les paysans, les ouvriers, les commerçants, enfin, chaque roman est sur un thème. C'est extrêmement documenté. En fait, quand on lit Zola, on peut reconstituer les logements de l'époque, reconstituer les magasins de l'époque. Enfin, parce qu'avant de faire chaque roman, il faisait des enquêtes. On a ses carnets d'enquête, il relevait tout, et après il mettait tout ça dans le roman. Donc c'est très précis. Balzac faisait aussi pareil. Hein. Chez Balzac, il y a des descriptions extrêmement précises, mais Zola est beaucoup plus réaliste. Alors, le plus grand de tous, c'est Victor Hugo, parce qu'il savait tout faire, et tout faire bien, et parce qu'en plus d'être un grand poète, un grand romancier, un grand tragédien, il a été un homme politique engagé. Notamment, il a combattu le coup d'État de Napoléon Bonaparte, de Louis-Napoléon Bonaparte. Il a été en exil, d'ailleurs, pendant tout le Second Empire. Il était en exil pour ne pas être dans le pays face à cet homme qu'il appelait très méchamment, mais très justement, Napoléon le Petit. Pour montrer à quel point le Napoléon III n'était pas Napoléon le Premier. Le père de Victor Hugo avait été un général de l'armée de Napoléon. Donc il avait de l'admiration pour Napoléon, aucune pour Napoléon III. Donc Victor Hugo, C'est le plus grand poète par la production, mais c'est aussi l'auteur de romans extraordinaires, Les Misérables, et le roman qui a été le plus adapté au cinéma dans le monde. Ouais. Bon, Les Misérables, ça existe dans toutes les langues, dans toutes les cultures. Ouais, c'est phénoménal. Le XXe siècle, alors j'ai choisi, hein, c'est très éclectique, Aragon.
Surréalisme.
Alors le surréalisme, ben, on y arrive, c'est au XXe siècle, voilà. Donc Aragon, par exemple, a été un des fondateurs du groupe surréaliste. Alors le surréalisme, c'est une aventure. C'est une aventure. Le XXe siècle, c'est le siècle des aventures littéraires. Le surréalisme, c'est une aventure pour sortir du classicisme, du naturalisme, etc. Donc ce sont des écrivains qui vont tenter des nouvelles méthodes d'écriture, notamment l'écriture automatique. L'écriture en utilisant les produits illicites les plus divers, les drogues, etc. Voilà. Le surréalisme, ça va être aussi le jeu de l'image, pour l'image et non pas pour le sens. Aragon a été d'abord un écrivain surréaliste, il a appartenu au groupe surréaliste, puis il s'est séparé du groupe surréaliste et il a fait sa carrière tout seul. Alors, je ne sais pas, hein, mon avis, c'est que c'est le plus grand poète du XXe siècle. C'est un poète extraordinaire. Qui est capable d'écrire dans tous les styles. Je le tiens aussi pour, si ce n'est peut-être le plus grand romancier, mais un des plus grands romanciers du XXe siècle. C'est-à-dire qu'il a fait des romans extraordinaires et des poésies extraordinaires. Bon, il a une vie assez longue, vous voyez, il a vécu jusqu'à 85 ans, donc il a une œuvre très, très, très importante. C'est un formidable manieur de la langue française, quoi. Il sait tourner la langue française, ses poésies sont absolument merveilleuses. Elles ont été beaucoup chantées, et donc les gens les connaissent parce qu'elles ont été mises en chansons. Il y a beaucoup de chansons qui ont été faites autour des poésies d'Aragon. Alors Aragon est de très loin le surréaliste le plus connu, hein. Après les autres poètes surréalistes, souvent ils se sont enfermés dans le surréalisme et ils ont eu du mal à atteindre le grand public. Bon, Marcel Proust, qui est surtout connu pour un grand roman qui s'appelle À la recherche du temps perdu, qui est un roman en plusieurs romans. Voilà. Donc là, c'est quelqu'un qui a énormément travaillé l'écriture. C'est une langue assez difficile, assez compliquée, mais d'une très grande richesse. Par contre, il n'a pas écrit de poésie, c'est uniquement un romancier. Bon. François Mauriac, l'écrivain bordelais, donc lui, c'est le régional. Qui a été surtout romancier, un grand journaliste aussi, et donc qui a écrit beaucoup de romans, dont l'action se passe en Gironde, à Bordeaux, etc. Quand on lit François Mauriac, on est dans le coin, hein, ça se passe à Bordeaux, ça se passe dans les petits villages autour. C'était un écrivain catholique, très, très pratiquant, donc ses romans sont très bien écrits, et marqués toujours par le combat entre le bien et le mal, en gros. Hein. C'est des romans très... très moraux et un peu sombre, on va dire. Voilà. André Gide. Donc, André Gide, vous le voyez, il est né au 19e siècle et il meurt au 20e, donc à cheval sur les deux siècles. C'est un écrivain qui a surtout écrit des journaux et des romans et des choses comme ça. Très, très fin observateur de la société française, qui a laissé des pages magnifiques. Voilà, donc on va s'arrêter là-dessus, je pense que ça suffit. Hein. Donc c'était un rapide survol. Après, vous avez je vous ai effleuré la peinture, la sculpture, etc. Mais je pense que ça nous amènerait trop loin. Est-ce que vous avez des questions? Bon, j'ai été obligé d'aller très très vite, mais là vous avez les noms principaux. Hein. Alors vous pouvez trouver des livres, vous voyez, j'avais amené ici un livre comme ça, là, sur la littérature française. Vous avez toute la littérature française résumée en un seul volume. Et là, tout est là-dedans, avec des extraits. C'est une collection qui s'appelle La littérature française pour les débutants. Donc ça, c'est très très bien fait, parce que vous avez des petits extraits, c'est fait par un prof, c'est très bien. Il y en a une autre qui s'appelle La littérature française pour les nuls aussi. Je préfère pour les débutants, pour les nuls, je trouve ça un peu infamant. Mais... Voilà. Donc ça, c'est des livres dans lesquels vous avez la poésie, la littérature, siècle par siècle, depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Vous avez aussi des recueils de poésie. Voilà. Bon, celui-là, il se trouve d'occasion sur Internet. Le livre d'or de la poésie française. Et alors là, vous avez des choix de poètes du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, par un poète lui-même. Hein, puisque l'éditeur, Pierre Séguer, c'était un grand poète du XXe siècle. Donc voilà, donc ça se trouve sur Internet, etc. Je pense que la meilleure façon pour approcher la poésie française, c'est de prendre un livre comme ça. Ce qu'on appelle une anthologie en français, c'est-à-dire que vous avez un ou deux ou trois poèmes de chaque poète. Alors, tant qu'on était sous la monarchie, c'est le roi qui décidait ce qui était écrit ou pas. Voltaire est allé en prison. Voltaire est allé en prison parce qu'il avait écrit des choses qui déplaisaient au roi. Si on écrivait quelque chose qui déplaisait au roi, on allait en prison. Après la Révolution française, beaucoup moins, notamment quand il y a eu le code de Napoléon qui permettait, il y avait des lois écrites et voilà. Mais jusqu'à la République, il y avait ce qu'on appelait la censure. La censure, c'est-à-dire que si le pouvoir disait « votre livre ne peut pas paraître », il ne pouvait pas paraître. Donc, il y avait des écrivains qui prenaient des risques. Par exemple, je vous ai montré le 19e siècle. Ne bougez pas, on va revenir en arrière. Baudelaire et Flaubert ont eu des procès, ils ont été en justice, ils ont été condamnés pour les œuvres qu'ils avaient écrites. On a traîné Baudelaire au tribunal parce qu'on estimait que son recueil de poésie était immoral. Parce qu'il y avait des images qui choquaient la société bien pensante. On a également fait un procès à Flaubert pour le livre Madame Bovary, parce qu'on disait que c'était un livre qui était immoral, qui donnait un très mauvais exemple à la jeunesse et à la population. Donc il y a un procès. Vous voyez, donc il a fallu attendre le XXe siècle pour que, grosso modo, un écrivain puisse écrire ce qu'il voulait. On ne peut pas écrire n'importe quoi, mais aujourd'hui, on a quand même une liberté de publication qui est importante. Mais c'est récent. La Chine de Mao et la monarchie en France avant, c'était pareil. C'était exactement pareil. Il y avait une censure officielle, c'était pareil. C'était pareil. Tous les pouvoirs autoritaires pratiquent la censure et l'intimidation, la peur. Donc c'est aujourd'hui, vous avez des pays où vous avez un écrivain là qui vient d'être condamné à, je crois, 30 ans de prison. Quel est l'écrivain qui vient d'être condamné à 30 ans de prison parce qu'il a écrit des poèmes sur le printemps arabe? C'est dans quel pays? Il y a un écrivain qui vient d'être condamné là à 30 ans de prison. Son crime, c'est d'avoir écrit des poèmes qui ont été publiés, qu'il était favorable aux manifestations du printemps arabe dans les pays arabes.
C'était l'année dernière,
oui, tous. Oui, mais là, il vient d'être condamné à 30 ans de prison parce qu'il a publié des poèmes qui déplaisaient. On est en 2012-2013, vous vous rendez compte? 30 ans de prison, c'est-à-dire que sa vie est foutue, quoi. Bon, c'est fou, c'est aujourd'hui. C'est pas en France, mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont condamnés parce qu'ils écrivent des poèmes qui ne plaisent pas. C'est quand même assez terrible. Vous avez des écrivains africains ou des cinéastes africains, ils font un film ou un livre qui ne plaît pas, ils sont en exil, ils sont obligés d'attendre que le gouvernement change pour revenir. La liberté d'écriture, elle existe, mais pas dans tous les pays. Il y a quelques pays où on peut publier, effectivement, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, bon, c'est des pays où on peut publier, mais c'est très récent. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut se battre pour que cette démocratie continue à exister. C'est pas... Ça peut disparaître un jour. Hein. Je veux dire, voilà.
Merci d'avoir écouté cette émission sur Odo Radio, une émission réalisée dans le cadre du projet Onde du Vivre Ensemble, cofinancé par le Fonds européen d'intégration. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos émissions sur notre site internet www.odoradio.net, onglet FEI.